France Culture.
Voilà, alors il y a une grande photo. Voilà, alors ça c'est une très belle photo. Voilà ma grand-mère. Vous voyez, elle est très jolie, elle a un visage très harmonieux. C'est une grande tablée. Donc c'est 1912-93. Elle a 19 ans.
Est-ce qu'il y a d'autres photos que vous pourriez décrire à Néanmoins ?
Oh, mais vous savez, hein, c'est... il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est un génocide. Donc,
Serre pour Lirovagian, la mémoire du génocide arménien. Michel Pomared, Nathalie Salle. Première partie, fuir les massacres.
Voilà, ça c'est son écriture, regardez. Belle écriture, vous voyez, avec des... avec le stylo, mais on sent les pleins, elle est déliée. En 74, elle va mourir 2 ans après. Regardez, c'est aligné.
Oft spart jagadakir, terminchev yerp zisaladzes. Garzes, pailag me tsaidetir, vos soldis roge gudzages. Ô misérable destin, jusque quand me tortureras-tu ? Comme si tu m'avais envoyé un éclair pour percer le fond de mon cœur.
Son père est quelqu'un de très cultivé, très instruit. Il est ingénieur pour le chemin de fer qui est en train d'être créé entre la Palestine et Bagdad. Et donc lui, c'est un des ingénieurs. Donc il est né aux environs 1850. Et il a épousé une femme, Annie. C'est peut-être pour ça que je m'appelle Annie. Annie étant la capitale ancienne de l'Arménie. Et qui veut dire très jolie, je suis désolée. Et donc il a épousé cette femme et ils vont avoir 4 enfants, 3 filles et 1 fils. Et ma grand-mère est l'avant-dernière. Et c'est un homme pour l'époque, donc elle est née en 1893, en 1903 elle va avoir 10 ans, et lui, à cause de ce travail de chemin de fer, il est obligé de voyager à droite à gauche, et donc il va placer ses filles chez les bonnes sœurs de Nazareth, à Nazareth. Et donc elle va dans cette école, et ensuite ils reviennent à Samsun, où elle est née, et elle va à l'école. Elle a 14 ans et demi. Et il y a un jeune homme qui la voit sur le chemin de l'école et qui tombe amoureux d'elle. Une catastrophe. Parce que la mère et la grand-mère de ce jeune homme vont venir à la maison pour dire, voilà, il faut que votre fille épouse notre fils, petit-fils. Et donc on dit à ma grand-mère alors, elle dit, mais non, je veux pas, moi je veux aller à l'école, je veux apprendre. Elle est très proche de son père. Peut-être c'est ça aussi qui fait qu'elle aime apprendre, elle aime savoir les choses. C'est une femme qui a déjà lu beaucoup Victor Hugo, Stendhal, de l'amour, elle a lu Bernardin de Saint-Pierre, enfin, les classiques, ça c'est le père sûrement. Et donc c'est quelqu'un qui a un esprit, et surtout si elle a lu Victor Hugo, qui a un esprit ouvert, éveillé.
Ce jeune homme, il a quel âge ?
À lui, alors elle a 14, 15, lui il a 22. Il est fils unique, le père est mort et il est négociant en tabac, donc il est très riche. Et le père de ma grand-mère va mourir. Il meurt en 1900, alors je ne me rappelle pas, mais 1908, peut-être, oui, d'une sténose du pylore. Et donc la famille se retrouve sans rien. Parce que la mère, elle travaille pas, et les 4 enfants, ils sont encore petits. Même s'il est né à, je sais pas, 16 ans, ma grand-mère 14, le fils, bon bref. Et quand arrive ce jeune homme qui veut épouser ma grand-mère, qui était très jolie, hein, faut le dire, eh ben elle dit non. Alors tout le monde dit, mais non, la famille, mais non, il faut que tu l'épouses. Alors elle dit, mais non, je peux pas l'épouser, puisque ma sœur est née, elle est pas mariée. Et il faut que ce soit dans l'ordre. Bon, ben on va trouver quelqu'un, voilà. Et donc ils vont se marier, les deux, ils vont trouver... Ils vont trouver un employé de la banque ottomane qui est d'accord pour se marier avec cette grande sœur, qui n'est pas d'une beauté extraordinaire, mais qui est très vive, intellectuellement très vive, très forte. Et donc, elle finit par accepter ma grand-mère, donc le mariage, et elle va se marier, et ils vont déménager à Trébizonde. Trébizonde assez connue, au bord de la mer Noire aussi. Et là, elle va faire des enfants. Elle va faire un garçon. Il est né en 1911.
Il s'appelle comment ?
Girard. Et donc, premier enfant, et il y a ces deux belles-mères adorables. Enfin, ça, elle me raconte beaucoup, hein, comment ça se passait, tout ça. Et ça se passait très bien avec la communauté, parce qu'elle faisait travailler beaucoup de gens autour d'elle. Enfin, cette famille, parce qu'ils étaient riches. Alors, elle fait un enfant, Girard. Après, elle fait des jumeaux. Mais ils tiennent pas, évidemment, il n'y a pas de couveuse, il n'y a rien, ils pèsent 20 kilos. Et puis ensuite, elle va avoir une petite fille, Aïda.
Vous n'êtes pas avec nous ?
Qui, moi, Excellence ? Je suis avec la Grande Turquie, tout le monde le sait.
Nous sommes en guerre, colonel. Le pays est sans dessus-dessous.
L'armée a déjà procédé à l'élimination des soldats et des officiers arméniens.
Je vais vous faire lire nos résolutions secrètes. Un plan conçu par le gouvernement, prévu de longue date dans les moindres détails. À Istanbul, on arrêtera les Arméniens partout. Chez eux, dans les hôpitaux, les universités, les rédactions de journaux.
Et ici aussi, mais pas tout de suite.
Quand 1915 commence, il y a des rumeurs. Elle est à Trébizonde avec donc son fils de 5 ans et sa fille de 6 mois, qui est à l'hôpital, parce qu'elle a, je ne sais pas. Ça, j'ai oublié de lui demander, je n'ai pas demandé. Et en entendant ces rumeurs...
C'est quoi les rumeurs ?
Les rumeurs, c'est qu'il va y avoir un massacre, puisqu'il y avait eu déjà en 1896 un massacre. Ces massacres sont récurrents. À 300 000 personnes, à Dana, enfin, 300 000 tués, comme ça, on part et on tue. Mais là, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était bien organisé par l'État, par les jeunes Turcs, c'était tout à fait planifié. C'est pour ça qu'on dit que c'est un génocide. Avant, c'était des massacres. Et à Trébizonde, ça n'a pas commencé avril, ça a commencé mai. Et donc, un matin, on tape à la porte, enfin... On tape à la porte, les grands-mères s'affolent. Les grands-mères, elles disent, je ne les vois plus, je sais pas, elles ont disparu. Moi, je reste avec le fils, 5 ans, à côté de moi. Et on me dit, sortez, vous allez... Elle dit, mais non, je dois aller à l'hôpital, il y a ma fille. Et donc, elle va aller à l'hôpital. Et là, elle est dans un berceau. Et il y a une dame dans la chambre aussi qui a son enfant. Et là, passe un garde qui dit, on ramasse les enfants pour aller à l'école. Et ma grand-mère, alors c'est là où... Elle a bien réfléchi à tout, elle sait, elle comprend. Elle dit, non, moi je ne laisse pas mon enfant aller avec vous. Je viens avec vous pour aller à l'école. On va le mettre à l'école, oui, d'accord. Et donc elle confie sa petite fille de 5 mois à la dame qui est dans la chambre. Et elle se retrouve avec son fils, et évidemment il n'y a pas d'école, et elle va se retrouver dans un hangar avec des gens couchés à moitié par terre et tout, enfin, comme ça. Et puis, elle va plus jamais avoir le droit de revenir dans l'hôpital. Elle va aller à la porte, on l'interdit. Et ses enfants, c'est connu maintenant, on sait tout, hein, c'est très documenté. Ils vont tous être empoisonnés avec des biberons de lait empoisonnés, voilà.
Lucin, mart gutun kez gutide. Shaderu rachutun gebajares, pats, tojvarutun kez ganidze. Yevachken ashuntner geosin. Lune, l'humanité te regarde. Tu suscites le bonheur chez beaucoup, mais la misère te maudit et tu fais couler les larmes des yeux. Est-ce que toi aussi, tu as pitié de moi, de ces milliers d'innocents qui n'ont de lit qu'une parcelle de terre? Oh lune, ils n'ont que toi comme lumière. Terlus, kez miain min lucin.
Et puis deux jours après, il y a beaucoup de sang partout, parce que les hommes se révoltent, se battent, et son mari va être emmené, soi-disant, pour discuter avec d'autres notables. Et ça aussi, c'est maintenant su. C'est-à-dire qu'on leur dit, on va aller à Constantinople, on va discuter, blablabla, à Constantinople, ils y vont. Dans le bateau, ils sont tous attachés et on les jette par-dessus bord. Et du coup, ma grand-mère, elle se retrouve avec cet enfant qui a 5 ans, qui est en bonne santé, le voilà. Il est là. Et donc, ils vont partir parce que on lui dit, on vous déplace parce que là, c'est la frontière, puisque c'est Trébizonde, c'est la guerre 14-18, on vous déplace à l'intérieur. Et très vite, elle s'aperçoit qu'on ne déplace pas à l'intérieur, on déplace vers le sud, vers le désert de Syrie, ce qui va être le cas, puisqu'on va les emmener jusque là-bas, les survivants, parce qu'en cours de route, il y a les meurtres, les hommes ne sont pas là, hein. C'est les femmes, les enfants et les vieillards, et petit à petit, évidemment, tout ça va mourir dans le chemin, c'est horrible. Et ma grand-mère, avec son petit, elle marche aussi, elle a dans sa poche un carnet, c'est ça qui est incroyable, avec un crayon, et elle marche avec lui. Et elle dit, je comprends que c'est fini, quoi. On va pas s'en sortir tous les deux. Donc, elle le donne à une paysanne turque. Ils n'ont pas de quoi manger, hein, ils n'ont rien. Et donc, autour d'une fontaine, ils boivent un peu, ils se lavent rien. Et elle donne à une jeune paysanne turque, elle lui dit, prends-le, prends-le. Voilà.
Donc, en quelques jours, elle perd son mari,
oui.
Sa fille,
oui.
Et elle donne son fils.
Voilà. Alors, elle donne son fils au bout de, je crois que c'est 5 jours. Elle le donne en se disant, elle écrit, hein. J'ai donné mon fils. J'ai donné mon fils, mais je suis folle dans les mains ennemies, mais qu'est-ce que je fais? Oui, mais quand même, on n'allait pas se sauver tous les deux, je ne peux pas le porter. Et les enfants autour de moi, ils ont des croûtes sur la tête et tout, et les femmes n'ont plus de lait dans le sein, et les bébés pleurent toute la journée jusqu'à mourir, mais c'est atroce, atroce ce qui se passe au milieu de ces femmes, quoi, c'est les femmes. Et donc elle décide, elle le donne. Elle dit comme ça, il a une chance de s'en sortir. C'est le choix de Sophie. Hein. Il a une chance de s'en sortir, avec moi, non.
Destin, ô misérable destin, jusque quand me tortureras-tu? Comme si tu m'avais envoyé un éclair pour percer le fond de mon cœur. Ils m'ont laissé privée de mon enfant. J'espère encore du bonheur pour toi. Non, non, les Arméniens n'ont pas leur part à cette table. Se pourrait-il que tu rendes mon fils mourant à l'affection maternelle?
Vous l'avez vu, la guerre ne se déroule pas comme nous le voulons. Les Russes frappent avec plus de force que prévu. Mais nous devons résister. Je tiens à vous rappeler ce que signifierait notre défaite, la fin de notre projet, la grande Turquie, la Turquie aux Turcs. Plus que jamais, nous devons être déterminés, prêts à nous libérer des ennemis internes. Nous sommes un grand peuple. Nous ne devons pas être pervertis par des peuples inférieurs. Bientôt, nous nous montrerons au grand jour et nous balayerons les Arméniens de notre terre.
Dans le cadre de l'Empire ottoman multiconfessionnel, multiethnique,
l'historienne d'origine arménienne, Claire Mouradian.
Les Arméniens apparaissent menaçants, pour, non pas parce qu'ils le sont en réalité. Ce qu'ils ont demandé depuis un certain nombre d'années, c'est la fin des discriminations, l'égalité des droits qui avait été promis justement par les jeunes Turcs avec le rétablissement de la Constitution, mais qui apparaissent protégés par des puissances rivales. Parce que la question arménienne est mise sur le tapis depuis 1878, le traité de Berlin. Donc c'est une demande de réforme pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc principalement une gendarmerie mixte, et puis la fin de l'arbitraire, la fin de l'oppression aussi par les tribus, parce qu'ils sont aussi beaucoup, souvent à l'est notamment de l'Anatolie, dans des zones tribales. Et les Arméniens, bon, d'abord c'est une population autochtone, conquise, qui a aussi connu un réveil à la fois culturel, intellectuel, etc. Supporte de moins en moins l'oppression, et l'oppression s'accroît avec le déclin. L'assiette fiscale diminue, les impôts pèsent plus lourd, la modernisation de l'Empire se fait en taxant encore davantage les habitants. Donc, pourquoi les Arméniens, outre leur situation, leur position géographique, le fait qu'ils ont une identité forte, une langue, etc., qui n'est pas assimilable vraiment à ce monde turc, ils auraient pu être assimilés dans une citoyenneté ottomane, mais dans une citoyenneté ethnique et musulmane, c'est un peu plus compliqué. Et il y a des préjugés à leur égard. On peut comparer aux préjugés antisémites. Ils vont servir donc de bouc émissaire. Et je vous disais, ça répond aussi à des siècles de stigmatisation des minorités. les non-musulmans ont eu un statut de seconde zone depuis toujours. Et donc il y a tout ça qui joue, il y a plusieurs facteurs. Donc il y a un temps court du génocide qui va se passer entre le printemps et 15 et l'hiver 16. Enfin voilà, ça se passe sur un an et demi. Puis un temps long, c'est-à-dire qu'il y a aussi le poids de ce passé à la fois impérial et international.
Clairement, Radian, quel bilan pour le génocide en termes de morts?
Alors on a des estimations de chiffres, donc on est sur base d'estimation. Les estimations de l'État turc négationniste sont à minima autour de 1 million, 1 200 000 Arméniens. Celles du patriarcat, qui sont corroborées par des données, des recensements, sont autour de 2 millions, 2 100 000. Alors bien sûr, il y a eu au fil des différents massacres, puisque c'est pas le premier massacre de masse. Il y a eu en 1994-96 déjà des grands massacres de masse, alors qui n'étaient pas destinés à exterminer l'ensemble des Arméniens. Mais alors, donner une bonne leçon, il y a les massacres d'Adana en 1909, donc il y a eu déjà beaucoup de pertes, mais bon, bientôt autour de 2 millions, 2 millions, 200 000, 300 000.
« 12 juin 1916. Voilà, cela fait déjà un an que la persécution des Arméniens a commencé. Un an sans qu'il y ait eu un seul instant, sans souffrance. Et ce malheureux destin continue encore. Ma souffrance de ces 4 mois est indescriptible. Faim, malheur, maladie, meurtre. Oh, ces pauvres filles qui meurent crucifiées, souillées. »
Et elle va commencer à marcher avec les autres. Et elle va s'évader 2 fois. Parce que c'est des convois où il y a 4 gardes, hein, puis les femmes comme ça qui marchent. Et puis celles qui s'évadent, on les rattrape, on les crucifie sur les arbres. Enfin, c'est absolument terrible, hein. C'est affreux. Et là, elle s'évade 2 fois. Une fois la nuit parce qu'elle dort par terre. Il y a le feu de camp des soldats, les tentes, mais tout le monde dort par terre n'importe où. Et elle, une nuit, elle part. Elle part, elle s'échappe et puis elle va être reprise. Et là, elle a le typhus, on la met en prison. Elle dit, bah, heureusement que j'avais le typhus, ils n'osaient pas me toucher. Ça, c'est, voilà, c'est peut-être les viols et tout ça. Donc, et ils la remettent dans un convoi. Et elle s'évade encore. Et là, elle parle évidemment le turc, hein, puisqu'elle habite en Turquie, l'arménien, le grec et le français. Et comme elle parle le turc, elle est intelligente, elle est à l'école. Et donc elle se met un foulard sur la tête à la turque. Et quand elle s'est évadée dans une petite ville, elle va à la poste et elle envoie un télégramme. Alors ça, je ne sais pas à qui, peut-être à Constantinople, puisque ça se calme là, à Constantinople. C'est dans l'arrière-pays, c'est une horreur, ça continue. Mais à Constantinople, non, c'est... Parce qu'évidemment, il y a la communauté internationale, comment ça s'intéresser, Jaurès, Anatole France en France, enfin voilà. Et elle demande de l'argent, et on va lui envoyer l'argent. Et là, elle paye un homme qui a des chevaux. Elle comprend qu'il faut repartir, pas continuer vers le sud, il faut repartir vers le nord. Et il y a 3-4 femmes avec elle, donc elle paye cet homme, un cheval par femme. Et l'homme est d'accord. Et ils vont remonter comme ça les 300 kilomètres qu'elle a pu faire à pied jusque-là. Il y a les villes, hein, Kema, tout ça. Kema, par exemple, on l'appelait l'abattoir des Arméniens parce que c'est l'Euphrate qui est tout en bas. Et puis on passe sur des corniches comme ça. Et là, on jette les Arméniens, 200 000, ploum. Comme ça, ça va vite. Et la rivière, évidemment, était rouge de sang. Enfin, c'est...
Annie Roman, votre grand-mère, Serpollet Ovagian, donc perd la moitié de sa famille en 1915, s'évade et pendant 3 ans arrive à se cacher dans des villages grecs. Comment elle a réussi à faire ça, cet exploit?
Alors, donc, avec l'homme là, à cheval, elle revient jusqu'au bord de la mer, mais elle n'arrive pas à Samsun ni à Trébizonde, elle arrive à Kiresun. Kiresun, c'est un nom même turc. Giresun, Kiresun. Et là, comme elle parle grec, peut-être connaissait-elle des gens déjà, peut-être, parce que c'est quand on est comme ça, un peu un peu riche, on a des amis à droite à gauche. Et donc elle va être cachée, elle change tous les 3-4 jours, elle change de famille. Et là, et là, et là. Et elle dit, ils sont toujours à ma recherche. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, comme elle était riche, son mari mort, si un Turc l'a trouvée et l'épousait, il avait la fortune du mari. La maison, l'argent, le tabac. Je me demande, parce qu'elle dit, ils sont toujours à ma recherche.
Nous sommes les orphelins de ce monde, sans patrie, sans foyer. Notre seule espérance dépendra de nos forces, avec le courage de notre vaillante jeunesse. Je crains que la colère tombe contre nous, les fugitifs. Je quitte le lieu où j'habite pour quelques jours. Oh mon Dieu, mais quand mettras-tu fin à tous ces supplices? Les souffrances que nous venons de subir n'ont-elles pas été au comble?
Et donc elle va se cacher dans toutes ces maisons, et c'est un peu Anne Frank, elle est tout en haut de la maison, dans une chambre, elle ne peut pas aller à la fenêtre, et c'est là où elle va continuer à lire beaucoup, et elle écrit. Dans son petit carnet, quand elle lit un livre en français, il y a des mots qu'elle ne connaît pas, alors elle écrit l'équivalent en arménien, enfin elle continue à prospérer intellectuellement, ce qui est assez incroyable. Et parfois les gardes viennent, tapent à la porte, elle décrit ça. Et l'homme de maison est à la porte et la jeune fille monte vite la chercher pour la mettre au cellier. Ils vont fouiller toute la maison, sauf le cellier. Elle est sauvée, c'est un miracle. Et elle me racontait, ça c'est pas dans son petit carnet, qu'elle était derrière une commode. Alors une commode, il faut couper les tiroirs, laisser juste 10 cm pour que le devant ne tombe pas. Et elle se cachait dans la commode. Et elle dit, il faut que je retourne à Constantinople. Donc, elle va sur le port, c'est un port, et elle voit des marins, des bateaux, et un jour, elle dit à un marin, voilà, je dois aller à Constantinople, mon mari est malade, je vous donne là un peu d'argent, puis à l'arrivée, mon mari vous donnera le reste. Et il est d'accord, et deux jours après, je ne sais pas exactement, la voilà dans ce bateau. Et elle me racontait, elle me disait, oh, c'était dur, hein, parce qu'il n'était pas gentil, lui. Alors, j'ai dit, pourquoi grand-mère voulait te jeter à l'eau? Non, non, c'est pas ça, mais quand même, c'était dur. Hein.
Voilà le printemps. Les arbres sont recouverts de verdure. Les oiseaux ont commencé à chanter et à gazouiller à ma fenêtre. Oh, vous, chers petits oiseaux, qui avez plein de liberté, vous qui traversez les montagnes et les mers sans craindre l'œil ennemi, pourquoi ne m'apportez-vous pas un beau matin, un petit bonjour de mon amour de fils? Il possède tout mon cœur. La vision de son doux visage me fait verser des larmes bien amères. Le reverrai-je un jour?
Mais je crois qu'elle a fait tout ça, elle n'a pas lâché pour retrouver le fils. Sinon, dans des moments terribles, pour soi-même, on se dit... On lâche, c'est fini, je meurs, tant pis, mais bon, c'est trop dur pour moi. Mais là, c'était pour retrouver ce petit qu'évidemment elle adorait. Et enfin, elle arrive à Constantinople, et là, elle avait caché l'argent sur elle, elle lui donne, et lui reste un surbris, il n'y a pas de mari, et elle va aller dans des familles arméniennes. Là, il y a un quartier arménien, et le frère de sa mère, il est à Batoum, en Russie. Et il dit, les soldats russes sont entrés en Turquie et ont ramassé des enfants arméniens dans les collines, dans les montagnes, là, en Anatolie. Alors, si tu veux, je vais aller voir ils l'ont retrouvé, Giray. Et donc, il y va et il a l'idée géniale d'avoir la photo de mariage de ma grand-mère avec son mari. Et donc, il passe dans les tailles de 10 ans, hein, parce que lui, il ne connaît pas l'enfant. Parce que lui aussi, il était dans le génocide. Et il y a un petit garçon qui dit « Ah oui, oui, c'est mon père, c'est ma mère. Ma mère joue du piano, mon père du violon. Oh, » oh là là, on l'a retrouvé. Donc encore la même chose, il demande à un bateau de prendre le petit à bord avec le capitaine. Il l'emmène à Constantinople, ma grand-mère est là. Enfin, c'est oh, elle écrit que c'est incroyable, c'est magnifique. Et elle va, comme elle parle le français, elle décide d'aller au consulat de France et elle dit « Je veux aller en France. » Et voilà son laissez-passer. Alors, au nom, alors c'est un vieux, évidemment, papier, numéro 11-115, passeport valable pour un an, au nom du peuple français, 27 ans, elle a 27 ans, Madame Kapamadji en Serpouille, arménienne, protégée spéciale, sans profession, accompagnée son fils Jirai, âgé de 6 ans et demi. Ça, elle avait dit ça pour payer moins cher sur le bateau. Née à Trébizonde, se rendant à Paris pour rejoindre son frère, de lui donner aide et protection en cas de besoin, délivrée à Constantinople le 28 janvier 21. Donc elle dit, on va aller en bateau, alors c'est facile, on prend le bateau à Constantinople, on arrive au Pirée, en Grèce. Le Pirée, alors elle doit être très charmante hein, sur le bateau, parce que quel âge elle a, la 27, elle est charmante, elle parle en français, elle parle trois ou quatre langues. Et sur le bateau, et puis après donc le Pirée, ensuite Gênes, en Italie, et là de Gênes, elle prend le train pour Paris direct. Elle passe pas à Marseille ni rien, alors que beaucoup venaient à Marseille. Et elle arrive à Paris sans le sou, avec le petit, voilà. Et commence un peu la galère parce que il faut qu'elle travaille.
Qui l'attend à Paris?
Personne. Non, personne. Alors il y a des Arméniens, bien sûr, qui elle meurt pas de faim littéralement, mais donc on lui dit il faut aller chercher de l'aide à l'église arménienne. Alors elle arrive à l'église arménienne, des vêtements, quelque chose, un peu d'argent. Et là, elle me dit, ils m'ont demandé de nettoyer l'église, mais moi, je ne vais pas nettoyer l'église en échange. Voilà, elle était un peu, oui, mais c'est ce qui l'a sauvée. Hein. C'est ce qui l'a sauvée, d'avoir de l'intelligence, de ne pas écouter. Voilà, elle fait à son idée, et son idée, ça a marché.
C'est quoi sa vie après?
Après, c'est une vie très modeste, avec mon oncle Gira, elle est dans un hôtel, dans le 20e, là-bas. Parfois, ils ne peuvent pas payer l'hôtel, ils partent la nuit. Et lui, il grandit un peu, et puis il fait l'école boule, et puis après, il arrête parce qu'il faut qu'il travaille pour soutenir sa mère, qui est très, très fatiguée. Hein. Elle a eu le choléra, le typhus, elle venait d'accoucher. Enfin, elle a des problèmes dans le ventre, de l'asthme, évidemment, l'asthme en plus. Et moi, je l'ai toujours connue allongée comme ça. Je m'allonge un peu, à se gratter la tête, les yeux fermés. Alors, c'est pas possible ce qu'ils ont fait.
Serpolli Ovagian, la mémoire du génocide arménien, avec sa petite fille Annie Roman et l'historienne Claire Mouradian. Extrait du récit de Serpolli Ovagian, Seule la terre viendra à notre secours, dit par la comédienne et autrice Corinne Zarzabadjian. Une histoire particulière, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Sandrine Chaperon, prise de son Michael Simon, Bruno Mourlan et Alexandre Dang, mixage Manon Houssin, réalisation Nathalie Salle, un documentaire de Michel Pomarède.